Instinct par raison, sans trop y penser pourtant. Après les événements des dernières semaines, il avait envie de s'échapper, d'être ailleurs, et il aimait bien le vieux Nathanael qu'il regardait comme une gravure du temps passé. Il avait dit à son père « Ce sera pour mes vieux jours ». Alors Charles-Pierre avait eu ces propos souriants qui ne pouvaient qu'aviver les désirs de son fils « Dépêche-toi donc d'y arriver. La vieillesse, c'est les grandes vacances. On a fait son devoir et payé tous les tributs que la société vous impose. Le travail et les chagrins sont derrière, on est enfin libre. » En descendant du train à Nancy, Augustin se souvint de ses paroles et se dit qu'avec un peu d'exercice il parviendrait peut-être, 2 jours par semaine, à jouir par anticipation de cette curieuse liberté. Comme pour une promenade ordinaire, il prit une sorte de landau rural qui avait connu des jours meilleurs et servait d'habitude à transporter les notables du pays, et cet équipage un peu solennel le conduisit vers Bourges à travers la forêt d'automne. En 2 heures, il connut là les impressions que ce pays peut donner, de merveilleuses impressions, aussi capiteuses que le vin de Bourgogne, mais pourtant fraîches et douces. Le soleil déjà froid de la saison venait frapper par l'arrière la voiture dont l'ombre s'allongeait sur la route, et des gouttes de sueur perlaient sous le chapeau du cocher. De longues allées sablonneuses coupaient leur chemin à angle droit, et Augustin crut voir 2 cavaliers passer au fond d'une perspective. Les campagnes françaises, se dit-il, sont grandes dispensatrices de mystères. Souvent on y découvre, au détour d'un vallon, dans la profondeur d'une forêt, quelques châteaux oubliés du monde et dont on voudrait, l'espace d'un instant, apprendre les secrets. Il se laissa bercer par le défilement du paysage, petit chêne jauni battant comme une vague au pied des sapinières, et parfois, rompant l'harmonie de ce concerto vert et jaune, la note plus âpre d'un être pourpre pour évoquer la chasse, le sang, les pleurs du cerf. De loin en loin, une épaisse rangée d'arbres lui semblait une haie gigantesque, sans doute destinée à protéger des regards une maison également disproportionnée, une maison de géants. Il traversa Bourges en remontant les siècles. Tout d'abord une ceinture récente de demeures bourgeoises et de fabriques, avec les murs de briques et les grilles en fer forgé, et l'on eût dit la périphérie d'une ville de lait. Il fut déçu par les sapins efflanqués abandonnés au hasard des jardins, par les petites esplanades vaguement plantées de marronniers, et même par le charmant spectacle d'un moulin et d'un lavoir bâti en demi-cercle. Le canal du Berry, avec ses peupliers et ses cheminées d'usines, lui rappela la Meuse en amont de Charleville. Des mulets battés par 2 étaient rangés le long du poste de douane, et quelques pauvres péniches vides le long du quai sablé mangé d'herbes folles. Plus loin, le XVIIIe siècle déployait les fastes militaires d'une architecture universelle, la caserne Condé, l'hôpital, l'école de pyrotechnie, le quartier des artificiers, le monde des Lignards et de M, de Gribeauval, dont les canons avaient ravagé l'Europe. Vêtu de drap blanc, le képi mou sur le côté du crâne, les soldats du contingent y polissaient les derniers arguments de la République. Augustin Pierre croisa des libérables qui manifestaient bruyamment leur joie de quitter l'uniforme et ce sale patelin. Le cocher s'arrêta sans crier gare devant la terrasse du Café des Beaux-Arts. La soif le tenaillait, ou bien le simple désir de boire. Il disparut dans les profondeurs cossues de l'établissement, dédaignant quant à lui les petites tables en zinc et la morne façade de la conciergerie. Pierre s'en fut à pied vers le cœur de la ville. Il y découvrit les charmes du petit royaume et de la renaissance des financiers, des hôtels hauts et sombres à l'allure de coffres à bijoux, comme autant de symboles du goût de vivre, d'amasser et de dominer. On aurait pu croire une petite ville italienne, aussi pleine d'énergie qu'une grenade pour avoir vidé de sa substance le pays avoisinant, et réduit la surface utile à ces quelques hectares bâtis de si somptueuse manière. Au bas d'une rue en forte pente, la maison natale de Jacques Cœur, une modeste construction à colombages, rappelait le chemin parcouru. Augustin s'éprit de cette ville morte comme d'une terre étrangère. Il quitta Bourges par la route opposée, mais le spectacle était le même. Après le cœur désert, à nouveau les casernes et les arsenaux, puis la banlieue moderne. La voiture longea l'Institut des aveugles et suivit un mur gris, interminable, avant de s'engager dans la champagne berrichonne. À la surprise d'Augustin, le paysage changea d'un coup. Rien ne rappelait plus la Sologne. La route fuyait tout droit vers l'horizon, à travers un univers nouveau, vallonné, coupé de haies, où les pierres blanches affleuraient dans les champs. La forêt avait disparu. Seuls subsistaient de loin en loin, quelques grands bois qui ne laissaient pas pénétrer les regards. À 7 heures du jour, en fin d'après-midi, une brume légère descendait sur les prés. La campagne parut à Pierre étrangement silencieuse. Parfois, au passage de la voiture, le concert plaintif d'un troupeau de moutons s'élevait d'une cuvette au fond nappé de lambeaux gris. Les bêlements s'éteignaient très vite, et les roues, le claquement du fouet et les encouragements du cocher faisaient un bruit d'enfer. Alors Bourges apparut à Augustin sous un jour nouveau. C'était comme si cette ville apparemment si calme avait été l'avant-poste, le fort frontière du monde connu, de là les militaires, les chalands, et ce concentré d'époques différentes, vestiges de civilisations bien disposées pour rassurer le voyageur. Après c'était le pays des sortilèges. Il se souvint de la légende de Bussy et releva le col de son manteau noir. Chaque fois que la charrette abordait le sommet d'une colline, un vent léger et coupant le prenait au visage.